Laudetur Jesus Christus.
Ouverture d'ici quelques minutes à Paris.
C'est de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français accusé de corruption, une première dans l'histoire politique du pays. La mobilisation contre le président Loukachenko ne faiblit pas au Bélarus. Plusieurs milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue hier. La mort d'un manifestant la semaine dernière ayant remobilisé les opposants. Le gouvernement irakien ferme peu à peu les camps de déplacés créés après 2014, mais les familles concernées n'ont plus forcément un toit pour les accueillir à leur arrivée, un problème majeur pour des milliers de personnes. Mobilisation au Guatemala contre le gouvernement, les manifestants critiquent le faible investissement du pouvoir dans la lutte contre la pauvreté.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, c'est une première en France. Un ancien président de la République qui comparaît devant la justice pour corruption. Nicolas Sarkozy est en effet accusé d'avoir évoqué, avec son avocat Thierry Herzog, de promettre un poste d'ambassadeur de France à Monaco au magistrat Gilbert Azibert, le tout en échange d'informations sur une affaire judiciaire. L'ancien chef de l'État dénonce des accusations grotesques et injurieuses, mais lui et les deux autres accusés risquent gros. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
Nicolas Sarkozy est le premier ancien président de la Ve République en France à comparaître devant des juges. Jacques Chirac, condamné en 2011, n'avait pas comparu en raison de son état de santé. Dans un procès qui doit durer jusqu'au 10 décembre, Nicolas Sarkozy devra répondre devant un tribunal correctionnel d'accusations de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes Bismuth. Il y a 6 ans, et alors qu'ils enquêtaient sur des allégations de financement libyen de la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, les juges d'instruction avaient découvert que l'ancien président, alors placé sur écoute, utilisait des lignes téléphoniques ouvertes sous le nom d'emprunt de Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Il est aujourd'hui reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir comploté avec son avocat pour obtenir des informations sur le dossier libyen auprès de Gilbert Azibert, alors magistrat à la Cour de cassation, et ce, en échange de la promesse d'un poste d'ambassadeur de France à Monaco pour M. Azibert. Les 3 inculpés encourent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende chacun. Le déroulement du procès est toutefois suspendu à l'état de santé de M. Azibert, qui sollicite le renvoi. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
La proposition de loi dite de sécurité globale en France fait part d'elle jusqu'à Bruxelles. Ce texte controversé prévoit notamment de punir la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre, ce qui passe mal notamment parmi la presse. Ce midi, c'est la Commission européenne donc qui s'en est mêlée, affirmant que les journalistes devaient pouvoir faire leur travail librement et en toute sécurité, ajoutant que, comme toujours, la Commission se réserve le droit d'examiner la législation finale afin de vérifier sa conformité avec le droit de l'Union européenne. L'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne menacent de sanctions tous ceux qui font obstacle au pourparlers interlibyen actuellement en cours. Sont visés également ceux qui continuent de piller les fonds étatiques ou qui commettent des atteintes aux droits de l'homme dans le pays, selon le communiqué commun des 4 États européens. Les discussions entre Libyens ont pour objectif de mettre en place des institutions de transition acceptées par tous en vue d'élections prévues en décembre 2021. Ils étaient encore des dizaines de milliers de personnes à défiler hier dans tout le Bélarus, avec toujours le même but, pousser Alexandre Loukachenko à quitter le pouvoir. Les opposants au président réélu au terme d'un scrutin contesté en août ne désarment pas et leur mobilisation s'est même accrue après la mort la semaine dernière d'un manifestant battu par les forces de l'ordre. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés sans ménagement à Minsk et dans d'autres villes du pays. Par dizaines de milliers, les Biélorusses défilaient dans les rues dans le cadre d'une nouvelle marche contre le fascisme, en cause le refus du président Alexandre Loukachenko de quitter le pouvoir ou à défaut d'engager un dialogue constructif avec les forces de l'opposition après sa réélection contestée au mois d'août dernier. Le mouvement de contestation qui s'était légèrement tassé depuis quelques semaines a connu hier un regain de participation. Nombre de participants ont en effet eu à cœur de dénoncer la mort d'un manifestant la semaine dernière. Roman Bondarenko, 31 ans, aurait en effet péri sous les coups des policiers après son arrestation. Depuis son l'exil lituanien, la chef de file de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, a qualifié ces manifestations de nouveaux pas vers un pays libre et juste, tandis que sur les réseaux sociaux circulent de nombreuses vidéos d'interpellations musclées. Certaines sources affirment qu'en plus de l'utilisation de gaz lacrymogène, les policiers ont utilisé des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Benjamin Netanyahou s'est rendu hier soir en Arabie Saoudite. Cette visite très discrète a été révélée ce matin par la presse israélienne, confirmée par une source gouvernementale à l'AFP, mais non confirmée par le principal intéressé. Le Premier ministre israélien a ainsi pris un jet privé avec le chef du Mossad, les services de renseignement extérieur israélien, destination la ville saoudienne donc de Neom. Il a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman. Cette rencontre serait la première à ce niveau de responsabilité entre les dirigeants israéliens et saoudiens. Benjamin Netanyahou qui doit faire face dans le même temps à un autre problème interne, cette fois son ministre de la Défense, Benny Gantz, qui doit lui succéder au terme d'un accord de coalition, a créé une commission gouvernementale chargée d'enquêter sur l'affaire de la vente de sous-marins allemands à Israël. Or, parmi les personnes visées figurent plusieurs proches du Premier ministre. Les travaux de cette commission doivent être rendus dans 4 mois. En Irak, c'est une décision qui provoque bien des interrogations et des inquiétudes, celle prise par le gouvernement de fermer les camps de déplacés d'ici mars prochain. Ils abritent les Irakiens contraints de fuir l'avancée des troupes de Daesh en 2014. Or, toutes les personnes concernées n'ont plus rien qui les attend à leur retour sur leur terre. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff.
1,3 million de déplacés en Irak, dont 260 000 dans des camps. Des camps qui aujourd'hui ferment les uns après les autres sur décision du gouvernement fédéral irakien, qui estime qu'il est temps pour ces déplacés de la terreur de rentrer chez eux. Toutes ces familles victimes de la guerre contre Daesh doivent désormais quitter leurs abris de fortune pour regagner des villes et villages souvent dévastés, où les services comme l'eau ou l'électricité n'ont pas encore été réparés et où les opportunités de travail restent bien maigres. Les camps de Kirkouk, de Saladin, d'Al-Anbar ainsi que d'Amriyat al-Fallujah seront totalement fermés d'ici la fin du mois. Sans toit, ni possibilité de se réinstaller chez elles, 100 000 personnes pourraient ainsi se retrouver dans le dénouement le plus total à l'approche de l'hiver et en pleine crise du coronavirus. La mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak affirme qu'elle n'est pas impliquée dans ce processus de fermeture des camps et assure que ces retours de déplacés doivent être sûrs, digne, volontaire et durable. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
Placement en détention aujourd'hui de 3 figures de la contestation de 2019 à Hong Kong. Joshua Wong, Ivan Lam et Agnès Chow ont plaidé coupables pour avoir organisé une manifestation le 21 juin 2019 devant le quartier général de la police du territoire. Et ce, une dizaine de jours après le début de la contestation contre Pékin et les autorités locales. Contestation bien actuelle cette fois au Guatemala. Hier, des centaines de personnes manifestaient pour réclamer la démission du président Alejandro Giammattei. Dans le viseur de ces protestataires, le budget de 2021 adopté cette semaine par le Congrès. Retour sur leur motivation avec Marine Henriot.
Les manifestants reprochent à l'État de ne pas accorder assez de ressources pour le social. En effet, le budget pour 2021 du Guatemala augmente de 10% par rapport à celui de cette année, mais la majorité des fonds est destinée à des chantiers d'infrastructures réalisés par le secteur privé. En revanche, pas d'augmentation pour la santé et l'éducation, ni pour la lutte contre la pauvreté et la malnutrition infantile qui touche près de la moitié des enfants de moins de 5 ans dans le pays. Les manifestants dénoncent également l'opacité des ressources du gouvernement pour faire face à la pandémie et la manifestation prend de l'ampleur. Aujourd'hui, l'unique université publique du pays appelle à une grève nationale. Les manifestations d'hier se sont déroulées dans le calme sur la place centrale de la capitale. En revanche, c'était une toute autre ambiance samedi soir. Le siège du Parlement a été incendié. Un coup d'État fait par des groupes minoritaires selon le président qui pour l'instant appelle au dialogue.
Marine Henriot. Covid-19, un nouveau vaccin a été annoncé aujourd'hui. Il s'agit de celui mis au point par le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford. Il serait efficace à 70% en moyenne, voire 90% dans certains cas, selon les résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil. Sa technologie plus traditionnelle le rend moins coûteux et plus facile à stocker que les autres vaccins annoncés. C'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.